Le SA15 Magatitude. Toute l'actualité du SA15, le lundi 18h30 avec Fred et Christian.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Mag Attitude. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes environ pour parler du SA15, seulement du SA15 et rien que du SA15. Je ne suis plus accompagné uniquement de Christian aujourd'hui. Il y a un nouveau Loïc. Loïc, bonjour.
Salut Fred, salut Christian, salut tout le monde.
Comment vas-tu ?
Ravi d'être avec vous. Eh bien, je vais bien, je vais très bien.
C'est un nouveau spécialiste rugby qui nous rejoint. Christian, hein, c'est super. On va se retrouver non plus à deux, mais
voilà, tu en as enfin quelqu'un qui a l'accent du rugby, donc ça fait plaisir.
C'est ça, l'accent du sud, en espérant que ça porte chance.
Comme ça, on sera plus
crédible. SA15. Et bien, si vous voulez bien, on va lancer le sommaire.
Le SA15 Magatitude, le sommaire.
Et oui, au sommaire de l'émission, nous allons revenir sur la défaite du SA15 vendredi. Comme tout le monde le sait, hein, le SA15 jouait sa survie face à Mont-de-Marsan. On va voir, ça s'est pas très bien passé et que c'est un petit peu le scénario catastrophe. On en parlera dans quelques instants. Suivra le résultat des jeunes, je dirais même les résultats, puisque nous en avons trois. Les Crabos, les À la Mercerie et les Espoirs étaient sur le pré. Et en fin d'émission, nous allons parler du prochain match qui arrive, qui aura un enjeu crucial pour l'avenir du club, puisque le SA15 se déplace à Oyonnax, ce sera vendredi et on va voir les espoirs d'Oyo ou pas. Et en toute fin d'émission, une petite surprise mais qu'on vous réserve, on va recevoir deux invités pour nous parler du Guy Marie. Mais si vous le voulez bien, on va lancer tout de suite le débrief du match.
Le SA15 Magatitude, le débrief du match.
Christian, on l'annonçait, hein, le SA15 se devait d'au moins remporter un point à domicile. Il y avait quand même l'espoir que Montauban s'impose face à Carcassonne sans laisser bonus défensif. Et on va le voir dans un premier temps, que le SA15 n'a pas fait le job à la maison, Christian.
Et oui, c'était pour le SA15 la première balle de match pour se maintenir en Pro D2 devant un stade de Chanzy hyper garni avec plus de 6000 spectateurs, un record de la saison battue. Et malheureusement, pour le SA15, comme tu le dis, ça démarre mal puisque Manus Obus rate une pénalité qui échoue donc sur le poteau à la 7e minute et c'est Mont-de-Marsan qui en profite en marquant le premier essai du match par Razakou à la 10e minute transformé par Laous Aspiassou. C'est bien donc que Mont-de-Marsan mène 7-0. De 7-0, on passe rapidement à 10-0 avec une pénalité de Laous Aspiassou à la 15e minute. Et là, le scénario de catastrophe pour le SA15 continue hein, puisque Mont-de-Marsan enquille les essais malgré la pénalité de Sobus à la 26e minute, donc qui ramène les siens à 10-3. C'est Mont-de-Marsan qui termine le mieux cette mi-temps avec un essai de Innocente à la 36e minute transformé par Laous Aspiassou et un carton jaune pour Ayarza suivi d'une pénalité de Laous Aspiassou donc à la 41e minute. Si bien qu'à la mi-temps, le public de Chanzy est morose puisque le SA15 a mené 20-3.
Loïc, 20-3 à la mi-temps, on s'attendait absolument pas à une entame de match aussi catastrophique du SA15, d'autant plus qu'ils jouaient quand même leur peau et on avait, enfin je sais pas quoi quelle était ton impression, mais pas de voir des guerriers sur le terrain. Il m'a semblé que cette équipe du SA15 était prise certes hein, par cette équipe de Mont-de-Marsan qui semblait supérieure, mais un SA15 qui était même pas à réaction.
Ouais, c'était un peu la déception pour le public qui était venu en nombre quand même vendredi soir, vu qu'on était pratiquement 7000 spectateurs. C'était quand même beau à voir, ça faut quand même le signaler, faut féliciter ce public qui est venu encourager ce 16e homme angoumoisin. Après, ouais, ça a été vraiment la déception, malgré peut-être les 2-3 premières minutes où ça envoyait un peu de jeu, où on était quand même dans les 22 mètres. Il y a eu cette pénalité de Sobus qui a touché le poteau. Alors en plus, elle touche le premier poteau et elle part sur l'extérieur en rasant le second poteau. Donc bon, c'est vraiment pas de chance sur cette pénalité-là. Et après, les Montois étaient assez sereins, je trouvais, parce que bon, ils jouaient quand même sur leurs 5 mètres, ils jouaient au large et tout ça. Ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit que cette équipe est vraiment sereine. Et il voulait gagner en plus avec le bonus, parce qu'à chaque fois, il tentait, enfin la plupart du temps, il tentait de taper en touche pour essayer de marquer des essais. Donc bon, ça a essayé de tenir avec cette défense, mais c'était très compliqué. On va dire que les ailiers Razaku et Naitouvi ont été extrêmement poussifs. Les deux où ils ont pu dépasser cette défense en première mi-temps, il me semble trois fois qu'ils l'ont passé cette défense. Ça a pu être rattrapé quelques fois, mais bon, des fois non. Donc c'est vrai qu'on voyait pas trop cette équipe d'Angoulême s'imposer au fur et à mesure du match. Et on se disait, ben là, le scénario catastrophe, il arrive de plus en plus, parce que Carcassonne, en même temps, était en train de mener à Montauban à la mi-temps 14-9. Ouais. Là, on s'est dit, là, ça va être très, très compliqué. Il va falloir que Montauban donne tout pour qu'on se sauve et que nous, ben, qu'on se bouge aussi en seconde mi-temps. Et je pense que ça a bien chauffé dans les vestiaires de Chanzy par Vincent Etcheto.
C'est vrai que cette première mi-temps, c'était la première mi-temps cauchemardesque, hein, SA15 pas dans le coup, hein, Mont-de-Marsan supérieur au SA15, il n'y avait pas photo, et en plus bah, Montauban qui c'était la contre-performance puisqu'ils étaient menés par Carcassonne à domicile. Ça annonçait rien de beau, mais on va voir quand même en seconde mi-temps, Christian, que le SA15 va relever la tête et puis que l'espoir va revenir, parce que Montauban de l'autre côté, dans le même temps, hein, va prendre l'avantage sur son terrain.
Malgré tout, c'est quand même Mont-de-Marsan qui marque un nouvel essai, leur troisième essai du match, un essai marqué par Loustalo, transformé donc par Laoussa Spiassou à la 46e minute. Donc là, le score passe à 27-3. Et donc là, forcément, on se dit que de ramener quelque chose de ce match, ça va être compliqué. Donc on a tous un peu les yeux sur le score à Sapiac, un score qui évolue. Et Montauban qui passe devant au score, mais avec toujours un bonus défensif pour Carcassonne. Mais dans le même temps, le SA15 se réveille avec un essai de la Forgue, de Maxime Laforgue, qui n'est pas transformé du coup par Manus Obus. Donc le score est de 27-10. Et après, une fin de match à l'avantage du SA15 avec un essai de Gauthier Gibouin transformé par Botica. Un essai également de Maxime Laforgue qui signe son doublé transformé par Beau. Et côté Montois, on aura juste un essai de Netoui transformé par Laoussa Spiassou. Si bien que le score final pour Mont-de-Marsan est de 34-22. Donc le SA15 prend 0 point. Et du côté de Sapiac, le SA15, Montauban avait fait le job, hein, en menant de je crois qu'il même de 11 points à un moment donné contre Carcassonne. Donc ouais, on se dirigeait vers un maintien acquis, un petit maintien, mais un maintien acquis. Et puis finalement, deux pénalités en fin de match pour Carcassonne. On transformait ce maintien acquis petitement. Ah, un maintien qui n'est toujours pas acquis et qu'il faudra aller chercher sur la dernière journée.
Qui est loin d'être acquis. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Loïc, mais je pense que y avait quand même moyen de remporter un point, hein, à part du SA15 sur cette fin de match. Ils ont eu notamment une ou deux occasions avec des ballons gâchés, une fois précipitation, une faute de main. Il y avait moyen de marquer cet essai qui aurait permis au SA15 de revenir dans ce bonus. On sentait quand même une équipe de Mont-de-Marsan un peu moins dominatrice.
Il y a vraiment eu en fait un petit tournant dans ce match, c'est au niveau de la 50e où du côté de Mont-de-Marsan il y a eu pas mal de changements, du moins en première ligne. On a pu voir qu'après que les avants angoumoisins commençaient à dominer en mêlée et sur les packs, sur les rucks aussi. C'était intéressant pour nous. Donc là on s'est dit pourquoi pas, surtout qu'après il y a eu les essais de Laforgue qui était là, plus Guibouin aussi. Donc franchement, on y croyait tous. Les remplaçants ont vraiment fait un boulot fantastique. Beau a pu remettre aussi de la dynamique dans le jeu angoumoisin. Ça allait beaucoup plus vite. C'est vrai que les Montois étaient un peu dépassés dans les 20 dernières minutes. Après, ils étaient vraiment dépassés, ont dominé totalement. Moi, j'ai trouvé l'entrée de Kitwanga, numéro 18, fabuleuse. Il était partout. Franchement, pour moi, c'est vraiment un joueur, un très très bon joueur. Enfin, il a vraiment très bien joué vendredi soir. Il y avait vraiment pas photo là-dessus. Il a vraiment amené nos violets et blancs vers la ligne d'en but. Il y avait mieux. Oui, c'est vrai qu'on pouvait ramener ce point de bonus. Surtout que à la fin, bon ben voilà, on peut pas lui en vouloir quand on est dans les 22 mètres une dernière fois à 3 minutes de la fin, que ça envoie du jeu, ça envoie, mais on n'y arrive pas à passer. Et qu'il y a Jarmouni, alors tout le monde était un peu surpris, mais il tape un coup de pied rasant. Alors c'est un peu marrant de voir un avant taper un coup de pied rasant pour son ailier, et le ballon sort en ballon mort. On revient à une pénalité après où il me semble qu'on prend non c'est un coup de renvoi au 22 pardon
ouais, coup de renvoi au 22. Ouais.
Et donc ça fait une occasion gâchée, parce que oui, on était à 2 minutes de la fin, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Le match, il joue pas sur ce coup de pied rasant là, et malheureusement on se le perd sur cette première mi-temps. Le premier essai qu'on se prend a été de suite dans les têtes, en fait, ça a flanché après, quoi. C'est bien ça le problème. Donc, ensuite, quand c'était perdu, ouais, on a cru à cette victoire de Montauban sans le bonus de Carcassonne, ou comme disait Christian, ben voilà, il y a eu ces pénalités à la fin. C'est vrai que tout le public était resté dans les tribunes. On était tous sur nos téléphones. Moi, je l'avais aussi, le téléphone. Il y avait quelques personnes autour de moi qui regardaient ça. Il y avait 25-20. Et ben à la 78e, quand Montauban passe cette pénalité pour le 28-20, on s'est tous dit c'est bon, maintenant faut que Montauban tienne le coup.
En sachant qu'en plus Boziel en rate une 2 minutes avant. J'avais un collègue journaliste à ma gauche qui lui avait le match en direct, était sur les deux matchs quoi, sur mon écran. Et Boziel rate une pénalité qu'il a pas l'habitude de rater 2 minutes avant. Et... je dis, c'est pas possible, c'est la cata. Il repasse devant, et puis bon, il y a cette faute à 50 mètres, quoi. Enfin,
elle est à 47 mètres en face. Voilà, c'est la 81e minute. Marquez, il en loupe pas des 100 et des 1000, hein, des comme ça. Hein.
Donc, non, mais avec la pression, là, peut-être que...
Ouais, mais bon, la pression, il la connaît un peu. C'est un joueur aussi international avec le Portugal. Il a connu de la pression ces temps-ci pour se qualifier en Coupe du Monde. Donc, il la mise entre les poteaux. Franchement, bravo à lui. Bravo, ouais. Bravo quand même à Carcassonne qui s'est battu quand même jusqu'au bout. C'est une occasion gâchée parce que, la semaine dernière, je vous ai écouté, puis il y a 2 semaines aussi, vous disiez que, voilà, il y a qu'un seul scénario catastrophique qui peut arriver, c'est celui-là. Malheureusement, il est arrivé. On était à 90% du maintien. Maintenant, je pense qu'on n'est plus qu'à aller à 20-25% du maintien. Ça va être très compliqué. Maintenant, faut qu'il s'y donne. Voilà, faut se donner à fond pour y croire. Faut que tout le monde croit en ce maintien, croit au moins, au minimum, à ce point de bonus à Oyonnax. Tout est possible, tout est réalisable. Sur 80 minutes, tout est possible.
Bien sûr, hein, il y avait une conférence de presse d'après-match, une conférence de presse bien triste. On va l'écouter tout de suite.
La première chose ce soir, c'est nous. C'est un début de match plutôt concluant, mais pas d'efficacité. Mais ça, c'est le mal de la saison. Hein. On entend les commentaires, même dans le couloir. On a fait un match, un autre match. On est généreux, mais là, on n'est pas assez précis. On n'est pas assez efficace dans les zones de marque. Ils viennent une fois, ils marquent, on passe, on fait un super début de mi-temps, on rate une pénalité, voilà, et après on revient, on peut aller chercher un bonus en deuxième mi-temps. En plus, il y a Mathieu qui fait une super rentrée, c'est une interception, on savait, comme tout le monde ressent, avec la moindre erreur technique, le moindre relâchement. Ils ont des bombes atomiques sur les ailes, ils sont pragmatiques comme plein d'équipes le sont, et on le paye très très cher, mais c'est nous, et parce qu'on n'a pas de marge et qu'on n'est pas assez efficace. Ils mettent un ballon emporté, le temps, nous on est à 15 pick and go pour s'approcher des lignes, donc il faut qu'on pense. Je me rappelle, en même temps, on est surtout demandé de mettre des joueurs chez court pour pouvoir être dessous et leur mettre la pression et pas les laisser contre-attaquer. Et à un moment donné, une réaction en tête, Morbin qui met un petit coup de pied par-dessus, c'est une solution individuelle, l'arrivée c'est deux passes et on prend 80 mètres. Il faut être précis, ils sont meilleurs que nous, on travaille pas dans la même catégorie, ça m'emmerde de le dire, mais on n'est pas dans la même catégorie qu'eux. Par contre, et on l'a prouvé par des belles séquences en deuxième mi-temps, qu'on n'était pas loin, on a une mêlée qui est quand même dominatrice aujourd'hui, on a des bons ballons, on tire le ballon, je ne sais pas sur la possession, je pense qu'on possède plus, mais il faut être plus efficace que ça. Surtout, il faut, surtout dans des moments comme ça dans la saison, il faut tuer les matchs, on n'y arrive pas.
Ouais, sur la première mi-temps, enfin, comme Vincent a très bien résumé, on fait beaucoup de choses très positives, on conquête, c'est très très bien, c'est un de nos meilleurs matchs cette année, je pense, notamment mêlé. Après, on a réussi à franchir beaucoup, et puis on n'en fait rien, on se jette les ballons sur la tête. Je vous ai trouvé un peu léger en défense par rapport à certains matchs en première mi-temps, ils ont fait du jeu assez simple et aussi pas forcément mis. C'était mieux en deuxième, et je pense que malgré les trous d'air qu'on a eu, les essais en contre, voilà, ce bonus défensif qui nous aurait sauvé dès ce soir. Nous tendait les bras, et là ce qui me frustre la chose, c'est qu'on a vraiment manqué de tête, quoi. On a joué vite les pénalités alors qu'il suffisait d'aller en touche, on les mettait à mal, on récupérait d'autres pénalités, des cartons, on s'est débarrassé du ballon au pied, on a tendu le bâton pour se faire battre, alors que malgré les éléments qu'on a eu sur l'ensemble du match, avec le cœur et l'état d'esprit qu'on a eu, on aurait pu aller chercher notre maintien ce soir. Donc voilà, c'est comme Vincent l'a dit, hein, c'est à l'image de notre saison, on est un peu des galériens, il faut qu'on trame. Contrime pardon plus que les autres, donc voilà, il va falloir qu'on se remobilise encore une fois et qu'on aille à Oyonnax pour prendre au moins un point. Voilà, on va se battre, je crois. Bien.
Et ouais, hein, Loïc, Christian, un coach et des joueurs un petit peu abattus par le scénario. Alors même si effectivement cette équipe de Mont-de-Marsan a montré quand même sa supériorité sur l'ensemble du match, même si effectivement en fin de match le SA15 revient. Bon, il y a aussi certainement l'effet où Mont-de-Marsan peut plus prendre ce bonus offensif, où le SA15 joue sa survie, une baisse de niveau, mais il y a le scénario aussi de l'autre match, et finalement on retrouve des personnes en conférence de presse sonnées, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ils étaient sonnés, ils s'attendaient pas à cette sortie-là, cette dernière sortie à Chanzy. Tout comme le président d'ailleurs, hein, ça a été triste, hein, la présentation
forcément,
des joueurs
espérait, tout le monde espérait une issue favorable, hein, ouais. Faire une belle fête à Chanzy. Bon, malheureusement la fête a été gâchée, c'est le sport, hein. Parfois on gagne et puis les fêtes qui étaient prévues, ben on les fait avec joie, et puis on se retrouve l'année prochaine, et puis des fois malheureusement c'est pas le cas, parce qu'on appelle
ça sera la semaine prochaine, pas l'année prochaine. C'est en l'occurrence.
Ouais. Donc voilà, après le maintien est encore accessible.
Oui. Ouais, voilà, le maintien est encore accessible. Bon, ben voilà, la fête a été gâchée. C'est vrai que tout était prévu, hein, pour la fête, hein, avec une arrivée des joueurs à pied, avec tout le public autour et tout ça. C'est beau quand même, ça fait penser aux fins de saison, presque aux phases finales, hein. C'était un peu une finale pour Angoulême vendredi soir.
Ah bah oui.
Malheureusement, bon ben voilà, la fête est cachée à la fin, quoi. Voilà, c'est dommage aussi pour les joueurs qui s'en vont en fin d'année. Ça a été un peu gâché, mais ouais, la sortie, parce qu'il y avait, je crois qu'il y a 12 joueurs qui s'en vont en fin de saison, ça a été annoncé. Moi je suis pas resté pour ça, pour voir les joueurs partir, parce que oui, moi comme plein d'autres supporters, on était déçus de ce résultat là déçus aussi du résultat de Carcassonne. Donc c'est vrai que le stade s'est vite vidé, mais bon, on espère que la fête sera encore plus belle la semaine prochaine, quoi.
Donc il y avait d'autres matchs, hein, bien sûr, lors de cette journée. Ça débutait jeudi, un match qui moi m'a intéressé, puisque c'était Agen qui recevait Nevers, et en fonction du résultat ça pouvait aussi dépendre, hein, des ambitions de Mont-de-Marsan.
Le match n'a pas intéressé que toi.
Oui, non, mais il m'intéressait dans le sens où c'est vrai qu'habituellement, on regarde souvent les résultats du SA15, mais là, ce match-là, pour le coup, d'Agen et Nevers, était aussi pas aussi intéressant que Montauban, mais il pouvait aussi déterminer quand même pas mal de choses. La Nevers, notamment, est allée s'imposer à Agen 21-17. Vannes recevait Colomiers. Vannes s'est imposé 27-23. Provence Rugby s'est imposé 33-14 face à Aurillac. Massy a été battu lourdement par Oyonnax, 33-5. Rouen s'est imposé à domicile et donc est sauvé, hein. S'impose 34-17 face à Béziers. Donc on l'a vu, le SA15 a été battu à domicile par Mont-de-Marsan, 34-22. Montauban s'impose à domicile face à Carcassonne, on l'a vu aussi, 28-23. Carcassonne prend le bonus défensif, on en parlera tout à l'heure, c'est ce qui nous pose problème. Et enfin, Biarritz est à nouveau battu, et cette fois à domicile, par Grenoble sur le score de 35-26. Un classement, le classement surtout hein, qui nous intéresse, c'est malheureusement pour nous la fin de classement. Premier, Oyonnax, toujours. Deuxième, Grenoble, 83 points. Oyonnax, 107 points. Troisième, Mont-de-Marsan, 81 points. Quatrième, Vannes, 80 points. Cinquième, Nevers, 80 points. Sixième, Agen, 77 points. Septième, Provence Rugby, 69 points. Donc là, il n'y a plus rien à jouer pour ces équipes de Provence. De Colomiers, huitième, 65 points. Neuvième, Béziers, 60 points. À égalité avec Biarritz et Aurillac, qui ont également 60 points. Rouen est 12e avec 58 points, c'est pareil, ils sont maintenus. 13e, Montauban qui est maintenu, 54 points. Et ben voilà, où va se jouer le maintien, c'est le SA15 qui a 51 points, Carca en a 47. Et Massy est toujours dernier, bien sûr, avec 33 points. Ben, plus de 4 points de retard, en sachant que Carcassonne va recevoir Provence Rugby vendredi prochain et que le SA15 va se déplacer à Oyo. On va en parler en fin d'émission, hein, surtout, mais ça va pas dépendre que du SA15, hein, je pense, parce que ça va aussi dépendre de la volonté d'Oyo et de Provence Rugby de faire des résultats à l'extérieur ou à domicile. Parce que est-ce que le SA15 a réellement les moyens d'aller prendre un point à Oyo avec une équipe d'Oyo qui veut absolument s'imposer à domicile? Je n'en suis pas sûr. On en parlera tout à l'heure. On en a terminé avec la Pro D2. On va pouvoir passer aux résultats des jeunes.
Le SA15 Magattitude. SA15 Magattitude. Le résultat des jeunes.
Et oui, des jeunes qui étaient sur le pré. On le répète hein, toujours, le SA15, ce n'est pas que l'équipe de Pro D2, c'est aussi un centre de formation et aussi une école de rugby. Et ça tombe bien, puisqu'il y avait des matchs qui avaient lieu. Les à la Mercerie se déplaçaient à Colomiers et les Crabeaux se déplaçaient au Stadeau. Rugby, donc Tarbes. Les Espoirs, eux, on le verra tout à l'heure, avaient un déplacement très compliqué à Brive. Du côté des à la Mercerie, c'est toujours compliqué, une saison qui a été quand même relativement galère. Ils ont perdu à nouveau à Colomiers sur le score de 27-5. Alors certes, le score n'est pas très très lourd, mais bon, voilà, ils n'ont jamais vraiment existé dans cette partie. Et les Crabos ont été, eux, très très lourdement battus par Tarbes, puisqu'ils reviennent avec 50 points, hein, 50 points en ayant marqué simplement 5. Donc c'est deux défaites à nouveau, malheureusement, pour les à la Mercerie. Et les Crabos, quant aux Espoirs, Loïc et Christian, ils ont plus que bien tenu la dragée haute à une belle équipe de Brive. Malheureusement, ils ont perdu, mais ils sont maintenus en poule Elite Espoir, et ça, c'est la super nouvelle du week-end.
Ouais, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, après, il fallait vraiment qu'il y ait un scénario catastrophique aussi pour nos Espoirs, pour qu'ils ne soient pas maintenus, vu qu'ils avaient 10 points d'avance sur Vannes et qu'il y a assez de deux journées. Donc c'était
franchement depuis vendredi on commençait à avoir un peu peur de tout quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, après voilà, c'est sûr qu'en fait c'est le début de période de Brive qui nous a mis dans le jus avec je crois qu'à la mi-temps il y avait 21-7, 3 essais à 1. Donc ouais, c'était un peu compliqué là-dessus, mais le score final a été de 33-17 où voilà, ça a été quand même assez serré parce que ils étaient revenus quand même et ils se prennent après 12 points il me semble dans les 20 dernières minutes ou dans les 30 dernières minutes, mais sinon ils étaient revenus au score, donc ça faisait plus que du 21-17 quoi. Donc ils étaient revenus à 4 points. Bon, ils ont lâché à la fin, c'est pas bien grave. De toute façon, un centre de formation qui se maintient, c'est toujours important pour le club pour la suite, parce qu'on peut espérer garder ses joueurs par la suite, parce que c'est important pour le club d'avoir des joueurs qui sortent du même centre de formation, parce qu'ils s'entraînent un peu des fois aussi, hein, les Espoirs et l'équipe une. Ouais. Voilà, je trouve que c'est quand même la bonne nouvelle du week-end, que le SA15 Espoir s'est maintenu 33-17, vu que Vannes, qui était dernier, qu'il fallait qu'il gagne avec le bonus à Bayonne, s'est pris une petite fessée 54-7.
Ouais, tout à fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais l'autre point positif, alors on ne sait pas hein, à quel niveau va jouer le SA15 l'année prochaine, mais malheureusement, en cas de descente, ça serait avec Narbonne les seules équipes de nationales à jouer, à avoir un centre de formation en poulet lisse, qui est plutôt une bonne nouvelle dans l'optique d'être un club formateur.
Oui, c'est forcément une bonne nouvelle. Après, je pense que l'effectif du SA15 ne sera pas le même s'il y a maintien en Pro D2 ou s'il y a descente. Hein, puisque s'il y a descente, peut-être que des joueurs partiront, peut-être aussi que le staff partira. Mais bon, ça pour l'instant, c'est de la science-fiction. Réponse lundi par rapport à l'issue sportive de la saison. Non, mais effectivement, les espoirs finalement nous étonnent de saison en saison. C'est vrai que l'an dernier, ils font une super saison. Il monte contre toute attente, on s'y attendait pas du tout, nous observateurs peu aguerris. Cette année, du coup, le maintien, c'était pratiquement voire plus dur que la montée, puisqu'il fallait s'adapter à des équipes d'un niveau supérieur. Et la bascule, elle s'est faite vraiment à la trêve. Hein. Guillaume Laforgue l'avait expliqué notamment au micro-tir en libre la semaine dernière. Le staff s'est vraiment réuni pour changer leur plan de jeu, jouer aussi avec les qualités et les défauts des adversaires. Et avec ses propres qualités. Et c'est vrai qu'au final, un peu à l'image du SA15, finalement, c'est une superbe phase retour qui permet aux espoirs de se maintenir. Donc on espère que ce sera la même issue sportive pour le SA15. Hein.
Ça serait magnifique s'ils arrivent à se maintenir, effectivement.
Ça ferait une belle avec saison si les deux équipes se maintenaient. En tout cas, sans corréler par rapport au sort qui est réservé à la Pro D2, on ne peut que féliciter les espoirs d'être maintenus. D'autant plus qu'avec Van, ils se suivaient depuis plusieurs saisons. Et c'est souvent Van qui gagnait. Donc voilà, de finir devant Van, je pense que ça a un petit goût dans la bouche qui est plutôt positif pour les espoirs.
Même si voilà, ils ont eu trois défaites d'affilée et que c'était compliqué pour eux, faut quand même les féliciter parce que bon, ils sont quand même dans la poule élite, donc c'est vraiment les meilleurs espoirs. La plupart des joueurs vont finir pro dans ce championnat-là. Donc il y avait quand même le Stade Toulousain qui était dedans, qui est quand même une grosse équipe avec, on sait que l'Aviron Bayonnais et le SU Agen aussi. Et le Stade Rochelet aussi, hein, sont de grosses équipes espoirs.
En sachant que le SA15 a battu deux fois Bayonne. En plus.
Et voilà, c'est
là-bas et à domicile.
Ouais, c'est ce que j'allais revenir parce que voilà, c'est quand même trois défaites d'affilée, mais faut dire quand même qu'ils ont perdu le week-end dernier juste de 3 points face au Stade Rochelet. Après, ils ont perdu au Racing juste de 3 points aussi. Donc, ils se sont battus quand même jusqu'au bout. Et faut quand même féliciter ça parce qu'ils y ont cru vraiment jusqu'au bout et le classement est peut-être avant-dernier, mais ça s'est pas joué à grand-chose pour être un peu plus au classement et c'est prometteur pour la suite.
Ouais, tout à fait. C'est pas parce que Van était vraiment en dessous que le SA15 se maintient, c'est parce qu'ils sont allés le chercher. Voilà, en montrant.
Ouais, c'est ça. Ils sont allés chercher quand même les points de bonus qu'il fallait au meilleur moment et surtout face à des équipes où je pense que personne ne pensait qu'ils allaient prendre un point de bonus ou une victoire face à certains comme Bayonne. Donc c'est vraiment très bien pour eux et félicitations.
Réagissez à l'émission sur Facebook, le SA15 Magazine. Attitude. Le SA15 Mag Attitude, le prochain match.
Très bien, on en a fini avec les jeunes, il nous reste très peu de temps, donc on va passer rapidement au match du SA15. Là par contre, la Pro D2, ça sera le dernier match, ce sera à Oyonnax. Messieurs, l'un et l'autre, pour vous, quelles sont les chances du SA15 de se maintenir et quel scénario voyez-vous pour vendredi concernant le SA15, mais aussi concernant l'autre match qui va nous intéresser, bien sûr, Carcassonne qui reçoit Provence Rugby.
Malheureusement, je vais peut-être annoncer des mauvaises nouvelles. Alors oui, ce qu'on veut tous, c'est que on prenne un point au Yona, ou sinon qu'on prenne pas de points, mais que Carcassonne ne gagne pas avec le bonus. On sait que Provence Rugby n'a plus rien à jouer. Et donc Carcassonne a sa survie. On se doute très bien que Carcassonne va gagner avec le bonus. Moi, je le vois comme ça et je vois même qu'ils vont avoir le bonus avant la mi-temps. Je pense que Aix-en-Provence va faire tourner pour cette dernière journée, vu qu'ils n'ont plus rien à jouer. Donc ça va faire 5 points pour Carcassonne, pour moi. Donc il va falloir aller chercher ce point de bonus défensif à Oyonnax. Chose qui va être très compliquée, je trouve, parce que on pensait que Oyonnax allait peut-être faire tourner en cette fin de saison. On voit qu'ils ne font pas du tout tourner, vu qu'ils ont gagné 33-5 à Massy et ils ont mis quand même une grosse équipe. On peut se dire que vu qu'ils sont sûrs de finir largement premier dans ce championnat, ils pourraient faire tourner dans cette dernière journée. Moi, j'y crois pas trop parce que les demi-finales après, je crois qu'elles seront que dans deux ou trois semaines après.
C'est 15 jours.
Voilà, 15 jours.
Ils jouent 15 jours après. Il y a une semaine, il y a les barrages, là, et puis après, ils jouent les 15 jours.
Ça veut dire que pendant trois semaines que l'équipe titulaire ne va pas jouer, moi, j'y crois pas du tout. Ouais. Je pense plus qu'ils vont mettre l'équipe type et qu'ils vont réorganiser leur base, ou sinon, mais qu'ils fassent tourner, mais qu'il y aura l'équipe type en remplaçant. Donc ça pourrait être quand même la bonne solution pour Angoulême, c'est-à-dire qu'on marque peut-être des points face à une équipe un peu plus affaiblie. Ouais. Et qu'après, quand les gros joueurs arrivent, c'est tenir le coup. Et peut-être que dans les têtes, dans le moral et tout, ça va peut-être un peu plus encourager notre équipe à tenir bon. Ça serait le meilleur scénario pour nous.
Après, Christian, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, mais forcément le scénario, la mission se complique par rapport au SA15, surtout par rapport au week-end dernier. Je ferai pas forcément trop d'analyse aussi pointue, mais je dirais simplement que on voit beaucoup sur les réseaux les supporters qui s'offusquent du fait que Provence ne va pas aller jouer le jeu à Carcassonne, ou que Oyo finalement est premier et va faire tourner. Moi, j'ai envie de dire que le SA15 il peut et il ne doit compter que sur lui-même. Je veux dire, voilà.
Mais ils sont ratés là, il faut.
S'il y a maintien vendredi prochain, le SA15 aura mérité son maintien. S'il y a descente, malheureusement, le SA15 aura aussi mérité sa descente. Voilà. S'ils descendent, je pense que ça se jouera pas sur un déplacement chez le premier. Hein, il y aura des regrets beaucoup plus importants sur certains matchs, surtout que ça se jouera qu'à un seul point. Il faut jouer le coup à fond. Le SA15 a quand même fait un très beau match à domicile contre Oyo. Ils avaient pris un bonus défensif avec. Même des regrets de pas avoir gagné le match parce qu'ils ont longtemps mené. Ils ont réussi à le faire à domicile. Est-ce qu'ils arriveront à le faire à l'extérieur? Là est la question. Donc on verra vendredi prochain.
Eh bien écoutez, croisons les doigts et puis on en reparle lundi prochain, même endroit, même heure. Mais tout de suite, la surprise, nous recevons des personnes qui s'occupent du Guimari qui aura lieu dimanche. Il n'y a que le stade Le Bon qui ne servira pas, on va en parler, mais sur la plaine là, du stade Chanzy, Castillon, etc. Et on reçoit notamment Laurent Barré. Laurent Barré, bonsoir.
Donc Laurent Barré, moi je suis bénévole au SA15 et je suis dans le bureau qui de l'organisation du Guimari en fait.
Moi c'est Anne Ballet, donc également bénévole au SA15. Je suis aussi dans l'organisation du tournoi Guimari et je m'occupe aussi des petits, du baby rugby. On essaie aussi de développer le rugby féminin au SA15. Donc j'ai un petit peu ces trois casquettes, voilà.
Et pour revenir au tournoi, c'est un tournoi qui n'est pas si jeune que ça, puisque il va pas fêter sa 40e année, ça sera l'année prochaine, on l'espère, mais cette année c'est la 39e.
Oui, tout à fait, la 39e année, et qui nous sommes surpris par le succès de notre tournoi, et tant mieux, j'ai envie de dire, ça veut dire que beaucoup de clubs partenaires sont heureux de venir chez nous, et d'ailleurs les coups de téléphone et les retours qu'on en a, c'est tout à fait ça. 26 clubs, 120 équipes, on va tourner entre 1300 et 1350 enfants. De moins de 8, moins de 10 et moins de 12, trois catégories,
trois compétitions du coup.
Alors trois compétitions en fait, c'est les temps de jeu qui diffèrent et puis bien sûr par rapport à leur catégorie quoi. Mais il y a aussi les moins de 12A et les moins de 12B.
Bon, j'imagine que tous les clubs charentais seront représentés.
Oui, il y en a pas mal. Cognac, Jarnac, Ruffec, La Couronne, La Rochefoucauld. Oui, donc oui, il y a pas mal de monde.
Et en termes de clubs plus huppés avec des grands noms,
On a l'UBB, on a Agen, on a aussi l'équipe de Prague qui vient avec Pavel Stasny qui jouait au SA15. Donc c'est toujours un plaisir de les accueillir tous les ans quoi.
Voilà, avec deux équipes cette année.
Ouais, on revoit Pavel en plus, donc c'est bien.
Donc du coup, c'est un Guimari international même.
Ouais. Ouais, ça fait plusieurs années là que Pavel vient avec deux équipes, enfin une équipe d'habitude. Cette année, c'est deux équipes. Ce qui demande une autre mobilisation parce que on est des parents on est riche de bénévoles. Parce qu'on doit être à 70 bénévoles cette année, facile. Ouais. Hein. Donc ce qui est énorme, c'est super. Et donc beaucoup de parents, et puis les amis de chacun. Et beaucoup de parents sont investis et reçoivent chez eux les petits chèques.
Oui, d'ailleurs. Ah oui, donc il y a des hébergements qui sont prévus
exactement.
Pour le week-end. Oui.
Exactement.
D'accord.
Ouais, tout est organisé, tout est calé.
Eh bien, ça permet aux enfants finalement de se voir sur le terrain, mais aussi en dehors.
C'est ça. C'est ça.
Ouais, et puis on a pris cette option à chaque fois de demander aux parents, même quand on avait des clubs de moins loin, si j'ai envie de dire, mais
oui.
Une année, le Racing, je me rappelle.
Le Racing, oui.
Qui était venu, et donc du coup, il couche chez l'habitant et les parents apprécient beaucoup, même les enfants.
Et donc ce tournoi a lieu sur une journée.
C'est ça, donc le dimanche 7 mai. Là, comme on a beaucoup d'équipes, eh bien, on va commencer le tournoi à 9h. Donc le timing va être vraiment très serré. Et on pense remettre les récompenses aux alentours de 17h30. Quoi.
D'accord, et j'imagine, vu le nombre d'équipes présentes, le nombre de joueurs également, qu'il va y avoir plusieurs terrains et que le site va être très large.
Oui, alors c'est un peu la problématique de la configuration des terrains, c'est qu'on aura 12 terrains, 4 pour les 8, 4 pour les 10, 4 pour les 12. Et il a fallu tout loger sur Chanzy, les stades Castillon. Alors on n'a pas pu avoir le stade Le Bon malheureusement, ce qui nous manque énormément. Du coup, ça nous resserre un petit peu, donc 9h, ça va démarrer pétante, si on peut dire. Il faut que ça démarre absolument à 9h. Et malheureusement, tous les clubs qui ne seront pas présents sur le terrain à 9h, ils auront match perdu parce que sinon on peut pas se permettre cette année de dépasser le timing en fait. Donc là cette année il y a des temps donnés, tous les clubs sont informés, des temps donnés et il y a 2 minutes pour changer d'équipe entre 2 matchs.
Pour changer de match au final.
Voilà. L'équipe qui sera pas présente malheureusement elle aura match perdu.
Oui après c'est aussi aux équipes de s'organiser, de savoir sur quel terrain elles vont jouer, de se préparer à l'avance.
Voilà.
Alors cette année il y a eu dans l'équipe du Guimari c'est comme tout, ça se modernise. Donc on a d'autres compétences qui sont arrivées aussi et bon Anne en fait partie, enfin Anne vient pas juste d'arriver, il y a un petit moment qu'avec nous. Mais je pense à David. Mm-hmm. Donc tous les matchs sont organisés par informatique, il a monté un programme Excel spécial, tous les scores vont être rentrés, sortir automatiquement.
Tout sera affiché.
Tout sera affiché, le club pro nous met à disposition l'écran géant pour tout afficher, mettre des photos des enfants et aussi tout ce qui est partenaire, le déroulement sur les côtés, là comme pour les pros. Ce qui fait que ça va être dans des conditions comme un match de pro, si je peux dire, mais pour les gamins, et c'est super. Par contre, pour nous, c'est bien.
Et ce qu'on peut rajouter aussi par rapport à ça, c'est que le tournoi sera arbitré par nos jeunes arbitres de notre école d'arbitrage. Donc ça, je pense qu'il faut le mentionner parce que ils vont être sur les terrains toute la journée et je trouve ça très bien. Quoi.
Combien d'arbitres d'ailleurs pour arbitrer toutes ces rencontres ?
16, je crois.
Oui, je crois qu'il en a 16.
Ah ouais. 16 comme à Charente, ça tombe bien.
C'est ça.
Et en termes de catégorie d'âge, donc il y a les 8, U10, U12. Est-ce que le temps de jeu diffère entre les différentes catégories ?
Oui, alors je te dirai plus trop.
Je crois que les 8, U10, c'est 10 minutes. Ouais. Et 12 minutes.
D'accord. Par contre, le terrain reste de la même...
Ça change aussi, les grandeurs changent.
D'accord, ok.
Oui. Par exemple, sur le stade Chanzy, on peut mettre 2 terrains U12, 2 terrains U8.
Okay.
Voilà, on arrive à loger comme ça. Par contre, la mairie nous a enlevé les poteaux. Enfin, va nous enlever les poteaux. On va laisser jouer le match de vendredi, quand même.
Oui.
Oui, mais c'est une sacrée organisation, mine de rien. Et on a aussi les espoirs, quelques espoirs qui vont venir nous aider, dont 2 espoirs qui sont entrés un peu dans notre organisation, là. Voilà, mais une équipe... moi, j'étais parti l'année dernière, j'étais pas sur le Guimari, parce que j'avais repris les études, donc c'était pour raison personnelle. Mais j'ai retrouvé un groupe Guimari, un bureau extraordinaire, avec des capacités de chacun, des compétences énormes, et voilà, on sait que ça va pas s'arrêter demain, quoi.
Bon, et du coup, sur les 39, Guimari, combien t'en as joué, combien t'en as vu, Babar?
Joué, je sais pas... J'en ai joué, j'en ai gagné. C'est bien prétentieux de ma part. Les équipes dont je m'occupe à Soyo aussi en ont gagné. Il y a eu des années qui m'ont marqué. C'était à Chanzy d'ailleurs à l'époque déjà. Il y a un moment que j'y suis, je les ai jamais comptés.
Oui. Et j'imagine qu'au fil des années, tu vois l'évolution du tournoi.
Oui. Oui, c'est un tournoi que moi j'ai connu de Ruel, que j'ai joué à Ruel quand M. Guimari, en fait, c'était l'ancien président de Ruel.
D'accord.
Et voilà, moi j'ai connu M. Guimari parce que j'ai commencé le rugby à Ruel. Et voilà, c'est ce tournoi qui est sorti de là-bas. Et puis après, quand Ruel a coulé. Et le SCAL l'a repris, et puis le SA15, et puis... enfin, ce tournoi a toujours duré, en fait. Et ce qui est plutôt bien.
D'ailleurs, moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que l'aura aujourd'hui du SA15 finalement aide le tournoi national, au niveau national, mais aussi au niveau de l'international? Est-ce que les équipes sont plus à même de venir jouer et participer au tournoi dû à l'aura de l'équipe première du SA15 et des espoirs aussi? Parce qu'on le rappelle, ils sont en poule élite espoir.
Personnellement, je pense que oui, quand même. Déjà, le fait que le tournoi soit à Chanzy, malgré tout, je pense qu'au niveau des gamins, ils sont... L'année dernière, par exemple, ils prenaient leur douche dans le vestiaire de nos pros. Les gamins, ils sont arrivés dans le vestiaire, ils se sont pris en photo. Enfin, pour eux, c'était formidable, quoi. Oui, ça joue...
Bon, il n'y a plus le tunnel.
Il y a ça.
L'ancien tunnel.
Oui, il y a plus l'ancien tunnel, oui.
Il y a ça qui joue, je rejoins Anne, et il y a aussi le fait que certains joueurs ou ex-joueurs, je pense à Guillaume en particulier, Guillaume Laforgue, avec leur relation, Bègle vient depuis que Guillaume est là, en fait. Voilà, parce que son papa de mémoire était entraîneur sur Bègle, dans le staff, donc ils sont venus. On a eu Brief qui est venu, et parfois.
Mais Floirac aussi.
Floirac, le Racing, il y a des grands clubs qui sont venus, Donc, ouais, Floirac qui viennent par amitié aussi, donc voilà. Et puis on commence à se faire connaître, les gens aiment bien venir aussi. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est, pour la 40e, justement, essayer de créer quelque chose d'intéressant et de faire venir ces grands clubs, parce que le Racing devait venir ce week-end aussi. Et La Rochelle organise son tournoi Adrien Plat le même week-end.
Ah oui.
On savait pas. Voilà, bon, ça s'est fait comme ça. Sauf que La Rochelle, c'est sur invitation, et forcément, tous les gros clubs vont à La Rochelle, quoi. C'est normal. Donc du coup, le Racing nous a appelé en s'excusant et ils vont sur La Rochelle. Par exemple.
Donc, oui, c'est vrai que les tournois de jeunes, c'est souvent sur le bouche à oreille, ou quand les équipes finalement sont contentes, satisfaites de leur expérience, elles reviennent.
Bien sûr, oui. Je pense à Maran qui m'a téléphoné cette semaine, qui me demande s'il restait de la place, parce que d'autres tournois sont annulés ailleurs. Donc ils voulaient venir chez nous. Alors je lui dis non, on est le complet, et ils disent on n'est pas surpris, vous êtes tellement connus, c'est tellement bien. Alors ça fait plaisir quand on a ces retours là, quoi.
Et le Guimari, alors j'imagine que c'est une grosse organisation. Vous allez nous rappeler le nombre de bénévoles qu'il faut et combien de temps il faut pour préparer un tel tournoi?
Comme disait Babar tout à l'heure, oui, on doit être à peu près 70 cette année, enfin tout compris avec les parents. Bon, après nous au niveau de l'équipe, on est une dizaine.
Bonne dizaine.
Et on travaille ensemble depuis longtemps, donc on connaît bien les rouages, quoi. Et après, on y est depuis le mois de septembre, quoi.
Oui. Donc pratiquement un an au final pour.
Voilà. Disons qu'on fait un débrief tout de suite après le tournoi. Après, l'été arrive.
Et on pose une date. On essaie de poser une date pour l'année d'après déjà.
Et puis en septembre, on attaque, quoi. On se voit une fois par mois. Alors au début, on étale un peu les réunions. Mais c'est sûr qu'à partir de janvier, ça s'affole, quoi.
Quasiment toutes les semaines.
J'imagine aussi que ce genre de tournoi doit avoir un coût. Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'association qui soutient ce coût? Est-ce que vous avez des aides extérieures? Je pense à la mairie d'Angoulême ou autre, je ne sais pas.
Il y a un peu de tout. Alors la mairie, ça plus au niveau structure. Parce que on a le stade, tout ça, quand même. Financièrement, ça peut être des partenaires privés.
Je crois qu'il y a un dossier avec le conseil général.
Après, il y a le conseil général qui donne des choses aussi. Voilà, on a des financements publics comme ça. Ça coûte sans coûter, je sais pas, après. J'ai plus trop les chiffres en tête, là, mais on rentre largement dans nos frais, quoi.
Oui, mais oui, parce qu'il y a de la restauration,
voilà,
j'imagine, sur place.
Oui, et on bénéficie aussi des partenaires des pros, quoi, puisqu'on est SA15 association, mais les partenaires nous aident quand même aussi par rapport à leurs tarifs, quoi.
Cette année, pour la première fois, d'ailleurs, il y a un partenaire qui offre à manger aux enfants. Parce que tous les ans, on offre à manger aux enfants du SA15, le midi. Voilà, entre
il y a une pause de match pour manger.
Il y a une pause d'une heure en gros, quoi. Donc là, pour nos enfants à nous, chacun, on leur offre à manger. Et les Tchèques aussi, parce que c'est eux qui viennent de plus loin. Et cette année, c'est un sponsor justement qui offre le repas du midi. C'est, pour pas le citer, c'est le Moulin Neuf. Donc voilà, c'est une première et on est super contents. On les remercie fortement, quoi. Voilà, mais on a plusieurs partenaires comme ça. On a Maître Cochon avec qui on travaille tous les ans, Angoulême Boisson, le département, comme Liane, la mairie, bien sûr. Les mairies, même, parce que même Soyo, des fois, la mairie de Saint-Michel cette année, qui va nous filer des tables et des chaises.
Super U aussi.
Super U, qui sont des gros partenaires. On va en oublier, on va se faire fâcher, mais on s'excuse pour les autres. Mais oui, on a des sponsors, des fidèles, et les parents, certains parents aussi de petits gamins, qui ont leur société et qui nous donnent un coup de main pour acheter les médailles.
Mais des Tivoli, là, ils ont acheté des Tivoli pour l'école de rugby.
Voilà, qui vont peut-être nous servir aussi pour nous, du coup, pour le tournoi. Voilà, donc non, on a des aides, les enfants sont bien épaulés.
Et donc un dimanche où forcément Chanzy va être en fait, il y a forcément 1300 enfants, donc qui dit forcément tout ce qui est accompagnant, parents. Combien de spectateurs grosso modo il y a? Et est-ce que l'accès est gratuit? Enfin, comment ça se passe pour les gens qui voudraient venir au Guimari
découvrir ce tournoi? Oui, les gens.
Ah ben là, c'est complètement gratuit. C'est le stade est ouvert. Il y a beaucoup de parents, évidemment. Il y a les dirigeants et c'est vrai que nous. Par contre, on aimerait bien aussi que ça amène des personnes un peu extérieures au noyau, quoi, parents-enfants. Et c'est vrai que c'est pas forcément le cas à chaque fois.
Oui, ça serait bien aussi que ça soit ouvert. Là, moi, j'en parle autour, des fois au boulot et tout ça, mais ouvert aux parents qui connaissent pas trop la pratique du rugby, qui osent pas trop emmener leurs enfants.
Et qui peuvent potentiellement faire découvrir à leurs enfants.
Il y en a une ou deux collègues qui m'a dit, mon fils voudrait jouer au rugby. Je lui dis, viens donc le 7 mai, tu verras, comme ça, le petit verra lui-même comment ça se passe pour les enfants. C'est ce public-là qu'on peut essayer de toucher aussi. Et puis, c'est une sortie sympathique aussi. Hein. Et puis, tout ce qui marche aux buvettes, aux sandwichs et tout ça, ça va rentrer pour les caisses des enfants au rugby aussi. Hein,
et forcément, c'est aussi la vitrine de l'école de rugby du SA15.
Bien sûr. Et puis on est au stade Chanzy. Malgré tout, pour certaines personnes qui n'ont pas la possibilité d'y aller, mais là, ils peuvent venir passer la journée tranquillement avec nous.
Oui, après, on a beaucoup de parents de la périphérie. Hein. C'est vrai que nos collègues, nos amis de la couronne, tout ça. Et cette année, on a tellement de monde, je pense à ça aussi, on a été obligé de restreindre au niveau des équipes. Et par exemple, nos amis de la couronne, qui a une école de rugby très très nombreuse, hein, ils sont hyper nombreux, on a été obligé de leur demander d'emmener moins d'équipes. Parce que ça passe pas, quoi. Et Cognac, pareil. Cognac nous a demandé plus d'équipes, on peut pas. Enfin voilà, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Très honnêtement, là, on peut pas, on est trop short, quoi.
Et par rapport au SA15, combien d'équipes?
Je les ai mis plus en tête.
Je crois qu'il y en a 3 de chaque.
D'accord, donc 3 U8, 3 U10, 3 U12.
Oui.
Ok, avec forcément donc un éducateur par équipe et des enfants qui auront à cœur de jouer sur Chanzy, que ce soit lors des phases de poule ou lors potentiellement de finale.
Alors malheureusement, ils n'auront pas tous accès, hein. Parce que voilà, on peut pas faire jouer tout le monde sur Chanzy, mais ceux qui seront, bien sûr, sont heureux de jouer à Chanzy. Parce qu'après, c'est plus les tournois comme avant, on n'a plus le droit de faire de phase finale en fait.
D'accord.
Ouais. Okay. C'est le nombre de matchs à la journée. C'est un classement.
Donc tout le monde va jouer le même nombre de matchs et après on verra qui a gagné plus.
Voilà, exactement. Parce qu'avant, vous savez, le matin.
Il n'y a pas une phase de poule, après on sort et on fait des phases.
Il n'y a pas de finale.
C'est interdit.
D'accord.
Non, c'est interdit.
D'accord.
Donc je trouve que ça gâche un peu, moi, mais bon.
Et puis ce qui est bien dans ces genres de tournois, moi je connais surtout l'ancien tournoi feu de la CFC, U13, U11, c'est que finalement on a des affiches comme. La Rochefoucauld, bébé et forcément les petits gamins charentais qui jouent contre des gros noms du rugby français, ils ont des étoiles dans les yeux.
Ah bah bien sûr, forcément. Si on peut avoir une finale SA15 Bègles ou SA15 Agen, forcément les enfants ils sont heureux.
C'est l'avantage de cette tournoi finalement, c'est de mélanger tout le monde. Alors que d'habitude, les équipes à renom comme ça ont l'habitude de jouer entre elles, les équipes un peu moins connues entre elles aussi.
C'est ça, puis dans les matchs de poule, c'est intéressant parce qu'on les voit, les petits clubs entre parenthèses. Parce qu'à cet âge-là, pour moi, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Tout le monde est un enfant, ça reste un enfant. On les voit comme ils se motivent eux-mêmes parce qu'ils vont rencontrer un nom, quoi. C'est un nom, en fait.
Hein.
Ça c'est intéressant, c'est rigolo. Quand le Racing était venu, je me rappelle, c'était quelque chose.
Pour les infos importantes, à partir de quelle heure les gens peuvent venir voir le tournoi et a priori ça se termine à quelle heure?
9h, 17h30 en gros.
Voilà, en gros, ouais.
En gros, 9h, 17h30 et il y a de quoi manger le midi, il n'y a pas de souci.
Oui.
Voilà,
les terrains, Chanzy, Castillon, donc c'est tout au même endroit.
Tour,
voilà, c'est vraiment presque une grande plaine. Ça va être une grande plaine de jeu finalement.
Tout est ouvert.
Voilà, tout est ouvert, sauf le bon, malheureusement qu'on peut pas accéder. Mais oui, tout Castillon, c'est là où il y a plus de terrains d'ailleurs. Oui, parce qu'il y en a 4 sur Chanzy, 8 là-haut.
Donc pour les gens qui ne connaissent pas, il y a une centaine de mètres. Entre Chanzy et Le Mont. Donc même si votre mobilité n'est pas immense, vous pouvez avoir accès à tous les terrains assez aisément, on va dire.
C'est ça, c'est un grand complexe sportif, tout le monde y a accès, oui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour se garer, c'est un peu plus la galère, mais quoique grand parking maintenant, c'est plus accessible.
Très bien. Ben pour terminer, avez-vous un mot ou quelque chose que vous souhaitiez rajouter ou dire?
Moi, j'espère tout simplement que les enfants passeront une super journée et puis nous aussi, parce que malgré tout, c'est beaucoup de travail et c'est toujours un plaisir le soir quand tout le monde est parti de se dire waouh, on l'a fait quoi. Mm-hmm. Et puis de donner beaucoup de plaisir aux enfants et puis faire partager notre passion qu'est le rugby quoi. Voilà.
Je remercie déjà tous les collègues, tous les bénévoles, enfin tout le boulot qu'on a fait depuis le début, puis les bénévoles qui vont venir avec nous donner un coup de main, et puis tous les clubs qui viennent, nos amis qui vont venir, même si on donne des restrictions cette année, j'en suis désolé, et en espérant que pour la 40e on aura accès à plus de terrain, plus de choses, parce qu'on voudrait faire un gros tournoi. Donc ça, je pense qu'on va le travailler assez rapidement. Voilà, pour faire une belle 40e et bien fêter ça, sur le signe de la BD un peu. On commence à avoir quelques idées par rapport à ça. Un petit trophée BD.
Eh ben, en tout cas, on vous donne rendez-vous pour la 39e d'abord, la 40e dans un an. La 39e, c'est dimanche, ça sera le 7.
Le 7 mai.
Eh ben, on espère vous voir très très nombreux au tournoi Guy Marie.
Merci
à vous. Merci beaucoup.
Le SA15 Magattitude. Toute l'actualité du SA15, le lundi, 18h30, avec Fred et Christian.